dirais qu'il y a plus de prix de caractère. 28 ans, je n'ai pas monté de starter. Tapez pas de hard rock pendant que je rappe par cœur. Le monde de demain, quoi qu'il advienne, nous appartient. Alors je veux maintenant, doucement, doucement, avant que ça tourne.
Bonjour, voici une nouvelle émission de On n'est jamais trop BD avec une variation puisque cette fois-ci, enfin pour la première fois, nous avons un invité avec nous et un invité de marque puisque c'est un auteur de bande dessinée de notre région et certaines de ces bandes dessinées même en rapport avec Marseille, on en parlera plus tard. Donc, je vous présente Christopher.
Bonsoir, bonjour, ouais, pas encore soir, oh la vache.
Ça va venir.
Ça va venir, ça va je venir. Vous assure, j'ai pas picolé à midi, tout va bien. Donc, non, ça va, il faut vite que je retrouve mes esprits.
Voilà, oh oui, non, c'est... j'ai l'impression qu'il faut reconnaître.
Ah ouais, ouais. Je suis intimidé.
Donc, voilà, Christopher, rapidement, tu veux te présenter?
Ah non, mais je le fais pour toi. Ah oui, fais-le pour moi.
Je le fais pour toi.
Tiens, voilà, on va penser que je suis narcissique.
Donc, Christopher, habitant dans la région, puisque je peux dire que tu habites à Gréasque, voilà.
Entre Aix et Marseille.
Voilà. Et puis enraciné pas mal, surtout avec des liens forts avec Marseille, entre autres par son attachement à l'OM, puisqu'il a. Il a réalisé un pavé sur l'OM que vous pouvez trouver dans toutes les bonnes librairies.
Dans toutes les bonnes librairies, qui s'appelle OM, un club, une légende, fait avec Jean-François Pérez, qui est chef des sports à Europe 1 et ami d'enfance, et avec qui on allait depuis notre enfance au Stade Vélodrome, et on a travaillé pendant 3 ans là-dessus, qui est sorti l'année dernière.
Voilà, donc il a rencontré un bon accueil, et à vous de prendre connaissance de ça, si vous aimez l'OM... Même si vous n'aimez pas la bande dessinée, à plus forte raison si vous aimez la bande dessinée, essayez, voilà. Et autre rapport directement marseillais dans ta production, c'est que tu avais fait un livre faisant partie d'une trilogie.
Oh, ça l'est vieux, ça.
Oui, un livre chez l'éditeur Très Étrange. Et d'ailleurs, ta trilogie s'appelait Très Être en jeu.
Ouais, ça, le jeu de mots, tout pourri, je reconnais.
Non, mais il fallait le faire. Et dont un tome, un des 3 tomes, se déroule à Marseille
et
aussi.
Qui était l'intrigue marseillaise, que j'ai écrit ça il y a maintenant 20 ans. Oui.
Voilà. Voilà. Donc, même si tu t'es expatrié pendant un certain temps dans les brumes du Nord pour nous, c'est-à-dire à savoir Tours, entre autres.
Entre Paris et Tours, oui. Entre j'ai Paris et Tours, 25 oui. ans à Paris et à Tours. Mais j'avais fait aussi une autre bande dessinée avec un copain d'enfance qui s'appelait Jean-Manuel Carrier, qui s'appelait Pour les yeux de cerise. C'était une intrigue qui se passait à Marseille.
Ah, c'est aussi. Vrai aussi. Ah ben, ouais. Je dois, et chez le même éditeur en plus.
Non, c'est à la Comédie Illustrée celui-là. C'était
pardon, autant voilà. pour moi. Autant pour moi. Donc voilà, donc Christopher, dont la production ne se résume pas à ça, puisqu'il a, sorti des cycles comme Les Filles, comme...
Il y a la série Les Filles chez Carabas, ouais. hein, qui a, où il y avait 8 volumes, donc ça c'est entre 2000 et 2010. Il y avait après d'autres séries au Lombard, comme Love Song, où il y a 4 volumes, donc sur l'univers du rock et de la bande dessinée, où c'est 4 potes qui doivent accepter un jour qu'ils ne seront jamais des rockstars. Et la bande-son est essentiellement basée sur les Beatles, les Kings, les Who et les Rolling Stones, donc 4 groupes des années 60. Et après, il y a encore plein d'autres séries, oui, comme Les Colocataires chez Dupuis, avec Sylvain Runberg, qui se passe aussi à Aix-en-Provence. Là, pour le coup, l'histoire, ça, la trilogie se passe à Aix. Et après, il y a The Long and Winding Road avec Ruben Pellerero, oui. qui finit entre Aix et Marseille, donc où c'est un road movie à travers la France et qui finit à Aix-Marseille.
Voilà, et c'est un livre récent en plus. Et ça permet de dire que Christopher donc, est un auteur complet, puisque... Il a réalisé des scénarios pour lui-même, mais aussi pour d'autres dessinateurs.
Oui.
Voilà, hein, plusieurs oui. collaborations.
Plusieurs collaborations. Donc, justement, Ruben Pellerero, qui est le dessinateur de Corto Maltese maintenant. Donc, ça, c'était le dernier en date. Et puis, sinon, j'ai aussi la casquette de dessinateur avec Nicolas Finet pour le dernier bouquin qu'on a sorti ensemble sur Woodstock, qui est sorti cet été pour les 50 ans.
Mmh. Et d'ailleurs, voilà, c'est ça. C'est tout en étant scénariste, il t'arrive de travailler avec des scénaristes. Oui. Et tout en étant dessinateur, tu écris des scénarios pour d'autres dessinateurs.
Ouais. Bah, voilà. De toute façon, c'est un peu la chance de ce métier-là. C'est qu'en fait, on. Et aussi quand on a plusieurs cordes à son arc, c'est de pouvoir vraiment changer de style et de sujet. Donc le projet de Long and Winding Road que j'avais prévu pour moi à la base, c'est quand Ruben Pellerero m'a dit maintenant moi j'ai envie d'une histoire de rock comme tu sais les faire. J'ai proposé ce scénario-là, dont j'avais déjà commencé à travailler dessus. Il m'a dit « Non, c'est ça que je veux. » Je me suis dit bah, « D'avoir la richesse du graphisme d'un Ruben pour dessiner ça, ça allait être fantastique. » Et c'est vrai que j'ai passé 2 ans à recevoir tous les mois 10 planches faites par Ruben, qui étaient assez magiques, puisqu'il transcendait vraiment mon texte. Et j'ai retravaillé mon texte en fonction de ses dessins pour vraiment redensifier encore plus l'histoire. Donc ça, c'est vraiment à chaque fois la possibilité et la chance dans ce métier-là, c'est de pouvoir avoir des échanges. Donc on a des chances avec des éditeurs et avec des auteurs, c'est le cas avec Jean-François justement sur le bouquin sur l'OM, où lui est un véritable journaliste. Il y a eu vraiment une autre qualité de travail qui a été fait, puisqu'il a une très belle plume, et c'était à moi d'essayer de casser au minimum son texte pour essayer de l'enrichir avec des dessins. Donc il y a vraiment tout un travail qui se fait de collaboration de façon vraiment différente.
Et donc cette manière de collaborer fait qu'il y a des allers-retours entre vous incessants, c'est-à-dire que de la même manière, ce que je veux dire, c'est que les domaines ne sont pas clos absolument. C'est-à-dire de la même manière qu'on peut te suggérer des choses sur ton dessin, ou toi, tu peux suggérer des choses sur le scénario que tu es en train d'adapter.
Ça dépend un peu de chaque auteur. C'est vrai que moi, c'est mon caractère. Mon caractère, c'est de toujours me dire que si ça va pour le meilleur de l'ouvrage, il n'y a pas de souci. Quand je suis scénariste et Ruben me fait des dessins comme avec la qualité qu'il m'offre, je ne me suis absolument pas posé de questions. Oui, j'ai réécrit des parties de texte pour renforcer des personnages secondaires que lui avait un peu transcendés. Mais sans perdre le fil narratif de ce que je voulais raconter. Et à la décharge, c'est la même chose. C'est quand moi je suis dessinateur, je vais essayer de pousser un peu les choses, le scénariste dans ses retranchements, parce que j'aimerais que le scénario aille plus loin, en plus d'émotions et tout ça. C'est ce qu'on a fait notamment avec Nicolas Finet sur le dernier bouquin sur Woodstock. Ouais. Je voulais pas raconter juste Woodstock d'une façon linéaire, comment s'est passé le concert il y a 50 ans aux États-Unis avec Hendrix, les Who et tout ça. Je voulais aller plus loin, et donc on a trouvé l'idée de parler de personnages fictifs qui sont de nos jours et qui vont amener leur propre regard sur l'événement d'il y a 50 ans en le rattachant à un événement quotidien, puisqu'on s'aperçoit que les résonances de Woodstock marchent encore de nos jours avec l'immigration, le racisme, les droits de la femme et tout ça. Donc c'était vraiment pouvoir essayer de trouver un sens à la bande dessinée qu'on fait, et pas pour qu'elle ne soit pas stérile.
Oui, donc ça permet aussi, donc comme tu disais, d'ancrer dans à la fois l'imaginaire collectif, mais aussi dans l'actualité.
C'est ça qui pour moi est vraiment le plus important. Donc c'est de réussir, et c'est là où les collaborations sont intéressantes. Donc ou sinon on va travailler tout seul parce qu'on sent très bien le sujet. Mais là, je dois avouer que ces derniers temps, je travaille quasiment tous mes derniers projets se font en collaboration. Et c'est vraiment très agréable parce qu'il y a vraiment un échange qui se fait. C'est assez excitant.
Est-ce qu'il y a aussi le fait, peut-être, je n'en sais rien, que ça te stimule plus que quand tu es seul face à ton propre scénario, et finalement tu discutes avec toi-même, quoi, et tu n'as pas de retour autre peut-être que celui de tes proches?
Non, parce que les scénarios, moi pour ma part, je travaille toujours, il y en a toujours pour 2-3 ans d'écriture avant de commencer à le dessiner. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très très lent, où ça a besoin de se construire, parce que je raconte essentiellement des histoires de vie quotidienne, des sujets qui touchent à l'humain, et c'est vraiment quelque chose que j'ai besoin de me nourrir avant de les écrire définitivement. Donc là, j'ai à peu près 5-6 histoires en cours que je traîne depuis 4-5 ans parce que j'ai pas encore trouvé la bonne approche. Et après, il y a une rencontre qui fait qu'on va s'accélérer et le sujet va être porteur. Mais le fait d'avoir le regard de quelqu'un d'autre, pour moi, en termes de scénariste, ne va pas changer. Je vais surtout chercher le dessinateur qui, moi, va plus me convenir. Et je peux attendre 6 mois, 1 an, 2 ans avant de trouver le bon dessinateur, ou j'ai le bon dessinateur, mais il a d'autres projets, donc j'attends. Parce que je ne suis pas pressé. Le problème de nos jours, c'est que la bande dessinée, on est vraiment devenu dans un marché de dingue. Puisqu'il y a 20 ans, il y avait 500 nouveautés par an. Maintenant, on en a plus de 5000. Donc, comment nous, en tant qu'auteurs, on peut se retrouver là-dedans? C'est en essayant vraiment de proposer une bande dessinée de qualité avec beaucoup plus de réflexion sur la narration et la qualité graphique et de l'histoire. Parce qu'il y a beaucoup de bandes dessinées, c'est super bien dessiné, mais on regarde après l'histoire, on dit mais il n'y a pas d'histoire dedans. Donc c'est là-dessus où on est vraiment, moi pour ma part, je suis frustré. Donc ce côté-là, on a plus envie de le chercher. Donc moi, je ne vais pas forcément chercher cette recherche dans la rencontre et le travail avec quelqu'un d'autre. Mais par contre, oui, à partir du moment où on a décidé de travailler ensemble, ça va me nourrir forcément.
D'accord. Et justement, je reviens là-dessus. Tu as parlé de cette différence entre il y a 20 ans du nombre de livres publiés et maintenant. Et est-ce que du coup, vu que c'est un marché quand même, il y a aussi une différence d'attitude des éditeurs par rapport à ça, aussi bien au niveau de l'acceptation des projets, ou voire même peser pour aller dans un sens ou dans un autre à ce niveau?
Oui, tout le milieu a complètement changé. En 25 ans, c'est indéniable. Alors, j'aurais tendance à dire que de nos jours, je ne conseillerais personne de rentrer dans la bande dessinée. Si quelqu'un qui veut se lancer dans la bande dessinée, je ne fais surtout pas. Mais en même temps, c'est très drôle, c'est parce qu'il y a le regard sur... j'avais vu une exposition à Bruxelles, au Centre belge de la bande dessinée, sur les 4 grands dessinateurs qui étaient Franquin, Maurice, J.G. Léger. Et le quatrième, c'était...
J'ai ah, la fameuse bande à quatre, comme ils disent. Voilà. Will, sans doute.
Et Will, je pense, oui. Et donc, il y avait un documentaire télé qui datait de 1960, où c'était pour la nouvelle année. Et les auteurs, donc les quatre auteurs-là... On leur posait la même question. Qu'est-ce que vous souhaitez aux jeunes dessinateurs de nos jours qui vont rentrer dans le marché? Et eux disaient, on ne sait pas comment ils vont s'en sortir parce qu'on a 50 nouveautés par an. Alors comment peut-on, comment un jeune dessinateur peut réussir à s'en sortir avec déjà que le marché est saturé avec 50 nouveautés par an? Comment est-ce qu'il peut s'en sortir? Donc j'aurais tendance à dire de façon, voilà, oui. Le marché il change, il est en perpétuelle mutation, mais c'est vrai que la qualité, la condition d'auteur a vraiment changé en 25 ans et on en a pris plein la gueule.
Oui, voilà. Alors, justement, parlons-en de cette condition d'auteur. Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus sur, dans l'ordre qui te convient, sur tous les plans, le plan matériel, c'est-à-dire quand vous négociez un contrat, cela se passe comment? Est-ce que vous êtes payé à la planche une fois le livre terminé, une fois sur un pourcentage sur les ventes, un peu un mélange de tout ça? Comment ça se passe?
Voilà, alors déjà, il faut savoir... Pardon, désolé, j'ai un peu une voix un peu cassée. Le prix d'un livre, on va dire qu'une bande dessinée, on va peut-être être vendue. Maintenant, elles sont assez chères. On est autour de 20 euros à peu près un ouvrage. Donc, on va rester sur un prix fixe. Sur un bouquin de 20 euros, les dessinateurs touchent entre 8 et 10% du prix. C'est-à-dire que si je suis tout seul, sur un livre qui est vendu 20 euros, je vais au mieux gagner 2 euros. Voilà, donc ça c'est ce que je vais gagner à la fin de l'ouvrage. Donc après, les pourcentages sont répartis entre l'éditeur, le distributeur et le libraire. Donc ce sont les trois gros axes qui vont prendre à peu près chacun les 30%, 30% pour l'éditeur, 30% pour le distributeur et 30% pour le libraire. Donc nous, les dessinateurs, on n'en est qu'à 10. Donc voilà, et si j'ai un scénariste, si j'ai un coloriste, on va encore diviser ce 10%, on va encore le diviser à 5% ou 4% ou 3% en fonction. Donc de nos jours, penser qu'on va vivre de nos droits d'auteur, il ne faut pas vraiment compter là-dessus.
Oui, j'avais bien ma petite idée là derrière. D'ailleurs, ça me fait penser comme parallèle à ce qu'on entend toujours sur les agriculteurs qui sont la pièce maîtresse de la création d'un produit et de la production de quelque chose et finalement qui se retrouvent sous-payés entre guillemets sur le prix final que le consommateur payera. De la même manière, vous qui créez finalement, qui êtes la raison d'être de toute la filière, vous êtes nettement les moins bien lotis en ce qui concerne la rémunération.
Ça c'est clair, c'est comme ça. Et en fait, on est dans un système qui est comme ça et dans lequel nous on essaye de se défendre, mais c'est presque trop tard parce que les contrats sont faits, il y a énormément de demandes de publications. Donc après, l'éditeur pourrait bien dire, bah oui, mais toi tu me demandes ça, moi j'ai d'autres dessinateurs qui prendre la moitié de ce que tu demandes, ben, je vais me tourner vers eux. Donc là, ça, c'est un peu le problème. Donc en fait, à la base, quand on était il y a 25 ans, on négociait, puisque le roman graphique, comme on le connaît maintenant, n'existait pas encore. On était vraiment sur un format de bande dessinée de 48 pages, façon Astérix ou Boule et Bill, ou des versions plus longues. Donc on était payé à la page. Donc c'était un forfait. On savait qu'il nous fallait faire nos temps de page, donc on était payé à la page. On était autour de 300 et 400 euros la page, donc ça nous permettait de vivre en fonction du nombre de pages qu'on faisait dans le mois. C'était à nous de nous débrouiller avec ça. Donc le marché a changé puisqu'on est arrivé avec des formats, ce qu'on appelle les romans graphiques, donc des formats plus petits en noir et blanc très souvent, et qui sont une grosse pagination, donc autour de 100, 200, voire 300 pages. Et là, on est payé au forfait. Donc, ouais. C'est-à-dire qu'on a ce nombre de pages à faire et on a un forfait qui est une partie nous est payée à la signature du contrat et l'autre à la fin. Et donc tout ça, c'est déduit à la fin de nos ventes qui s'effectuent. Donc après, ben, c'est à nous de réussir à mieux négocier le contrat le mieux possible. Donc on arrive, donc les tarifs maintenant pour un roman graphique, c'est soit zéro, ouais. Voilà, carrément, on a zéro, ouais. Ou sinon on peut avoir 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 dans le meilleur des cas, ou après on arrive à négocier des contrats plus élevés, mais on est autour de 10 000 euros le roman graphique de 100 ou 200 pages, ce qui fait qu'avant une bande dessinée, par auteur, en tant que dessinateur, on pouvait gagner entre 20 et 30 000 euros pour gagner. Donc, si nous faisions un an et demi de travail, maintenant, on est à moins de 10 000 euros.
Oui.
Donc, la condition est vraiment devenue précaire.
Ah oui, non, ça change énormément. Oui, à moins c'est d'avoir une capacité, pour reprendre quelqu'un de célèbre qui a dit cette adorable formule, travailler plus pour gagner plus, c'est-à-dire charbonner et faire de la planche en quantité, si on peut le faire. Sans détériorer son travail, bien évidemment.
Donc ça c'est le gros problème qu'il y a à l'heure actuelle, en fait, c'est que la réponse des éditeurs par rapport à ça, c'est que, donc, comme je disais tout à l'heure, il y en avait 500 nouveautés par an il y a 25 ans, ce qui fait que le tirage moyen était de à peu près de 16 000 exemplaires. Donc on savait que nous, en tant que quand une nouveauté, ben on savait qu'on allait vendre 16 000 exemplaires, donc on allait toucher des droits d'auteur. Et à partir de ça, maintenant, ce chiffre-là est devenu drastique. On est tombé à moins de 700 exemplaires par bouquin.
Ah oui, à ce point, je n'imaginais pas.
Non, on est vraiment ces dernières années, c'est devenu vraiment catastrophique. Ce qui fait que donc, les éditeurs jouent de ça, en train de dire, oui, mais écoute, la moyenne est très basse, donc il ne faut pas se plaindre si on arrive à vendre 1 500 exemplaires de ton bouquin.
D'accord.
Donc c'est un bon gros drame pour nous, puisque en fait, on est dans une espèce de spirale négative en tant qu'auteur, alors que les éditeurs, eux, sont dans une spirale qui est beaucoup plus vertueuse, puisqu'ils sortent beaucoup plus de titres, qui leur coûtent moins cher, et donc ils gagnent plus d'argent dans cette histoire.
Ah, effectivement, oui. Voilà. Donc vous êtes à la fois, oui.
Dindon et la farce.
Voilà, le dindon et la farce. Victime d'une forme de dumping professionnel, puisque voilà. Finalement, à la limite, ils vont vous dire, d'ailleurs, ça a été le cas, ben, il y a des auteurs d'Europe centrale, quel que soit le talent, je ne parle pas de talent, mais oui, il y a eu beaucoup de Serbes et Croates, etc.
Ça, pas...
Ou voire d'autres continents, il y a eu beaucoup dans le domaine du comics, il y a eu beaucoup d'Asiatiques qui sont allés.
Là-dessus, ce n'est pas gênant. Pour moi, ça ne me gêne pas du tout, ce rapport-là. C'est juste que les éditeurs en profitent.
Oui.
Même sans aller chercher ailleurs, voilà, on est un jeune, on veut faire sa première bande dessinée, on a la chance de vivre encore chez son papa et sa maman, donc on n'a pas de dépenses, et ben oui, on va signer le contrat à 5000 euros parce que c'est un pied à l'étrier et on espère. Donc ça c'est un jeu de dumping qui est hélas légitime en tant que jeune auteur, mais qu'on trouve un peu, nous, dégueulasse de la part des éditeurs de jouer ce jeu-là, sachant que c'est pas comme s'ils étaient en crise. Il faut arrêter les discours.
D'autant que, d'après ce que je crois avoir compris ou observé, le travail de l'éditeur étant de valoriser les produits, avec cette quantité-là, il fait des choix. Et donc, la mise en avant, la mise en place, comme on dit, n'est pas très équilibrée. Et que ce soit sincère ou par calcul commercial, ils font des choix de placement et peut-être des œuvres moins voyantes ou dans lesquelles ils croient moins, ont moins la place.
Le marché, bon, il y a les grands titres, les auteurs, où on sait déjà qu'ils vont bien tourner. Donc ça c'est pour beaucoup, c'est une chance parce qu'ils ont une notoriété qui font que déjà, il y a une forme de lectorat qui va... Même sans savoir ce que va contenir la bande dessinée, ils vont l'acheter parce que c'est l'auteur qu'ils aiment. Mais par contre, derrière, l'éditeur, et ça c'est la politique qu'on sait, c'est qu'un éditeur ne va pas faire d'effort commercial sur un ouvrage s'il n'a pas dépassé déjà les 15-20 000 exemplaires. Donc c'est-à-dire que les 15-20 000 premiers exemplaires, c'est grosso modo à l'auteur de se débrouiller pour, et qu'il y ait une... un alignement de planètes qui font que la bande dessinée va être accueillie par un public, trouver son public, redemander, et à partir de là l'éditeur va constater qu'il y a un effet boule de neige autour de l'ouvrage et lui va commencer à s'y intéresser à ce moment-là. Mais le but à la base, c'est bien sûr ils croient au projet, bien sûr ils espèrent que ça va marcher, mais il va pas mettre tout le développement économique dans l'ouvrage qui va arriver comme il mettrait pour un autre ouvrage. Là par exemple, il y a le Ruben Pellerero là, donc on parlait tout à l'heure, qui sort le nouveau Corto Maltese qui va sortir donc je l'ai déjà vu, là on sait qu'il y aura une grosse tournée de dédicaces plus énormément de promos. Mais ça, c'est légitime parce que c'est un titre qui marche très bien. Mais par contre, un jeune auteur avec une nouvelle bande dessinée n'aura jamais la même promo, ça c'est sûr.
Oui, sans parler d'équivalence, allez, soyons romantiques, peut-être que certains éditeurs croient en certains projets. Toi, tu as vu plusieurs éditeurs différents, peut-être que tu as senti des différences, à moins qu'il y ait un nivellement par les commerciaux, finalement, qui ne sont plus des vrais directeurs de collection ou des vrais éditeurs au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire qui acceptent, qui conduisent, qui accompagnent plutôt que conduire un projet. Là, c'est plus des chiffres qu'ils donnent. Ils ont des données de base en se disant, bon, ben, celui-là, on va tenter le coup, le tir à tant d'exemplaires et puis on verra bien ce qui se passe.
C'est l'effet de masse, en fait. C'est que maintenant, ils sortent plusieurs titres et s'il y a là-dedans, il y en a un qui marche, ils en sont contents et ça permet d'équilibrer le tout. Mais le rôle d'un éditeur à chaque fois, c'est il y croit. L'éditeur. Je le sais, les directeurs de collection et tout ça, quand ils vont signer un projet, ils y croient, ils y ont envie. Mais il n'y a pas la même passion qu'on avait à une époque. Voilà. C'est-à-dire qu'avant, ils avaient l'éditeur, ils devaient défendre, on va dire, 10, 20 bouquins par an. Donc, ils suivaient ces auteurs, ils pouvaient les rencontrer, on avait du temps. Maintenant, c'est fini. Avant, donc lui, donc dans la hiérarchie, il y a le directeur de collection qui va nous signer le contrat avec soit le comité éditorial, soit le président de la maison. Mais c'est l'éditeur qui, lui, est porteur du projet. Donc, ce qu'on appelle un éditeur, ce n'est pas l'éditeur en lui-même, mais le... Et à partir de là, ce projet-là n'est plus suivi comme il était avant, où on a maintenant plus de secrétaires de rédaction, plus de correcteurs, et beaucoup de choses ont changé.
D'accord.
Merci. Mais c'est un beau métier. Oui. Continuez à y croire.
D'accord. On reprendra après une petite pause musicale.
I'm a man, clean.
Voilà, c'était Jobriaf, I'm a Man, chanson des années 70.
Donc, super musique, ça fait plaisir d'entendre ça. Je dois avouer que je connaissais pas trop, ça fait longtemps que je n'avais pas entendu parler, et ça, ouais, ça fait, c'est bien. Ça...
De temps en temps, je me fais des plaisirs voilà, en choisissant des choses pas forcément connues, quoi. Je vois pas trop l'intérêt de repasser, même des chansons que j'adore, mais qui sont plus connues.
C'est un bon morceau, ça colle un peu à l'univers que je fais, donc ça me va très bien, merci beaucoup.
Je m'en doutais un peu que tu apprécierais. Voilà, donc on était resté dans les rapports d'édition. Donc actuellement, tu as donc plusieurs projets. C'est peut-être trop tôt pour en parler
pas de problème.
Ben,
ça va.
Alors, vas-y donc. Puisque...
Ben, donc le suite à l'album sur Woodstock qui raconte donc les événements de 1969 et de la musique. Moi, j'ai toujours aimé la musique. Depuis que je suis gamin, ça, j'y peux rien, c'est comme ça, c'est en intraveineuse, avec mes origines anglaises.
Voilà, c'est ce que j'allais t'interrompre, il me semble que tu n'es pas né en France.
Non, je suis en Angleterre, donc en 1969 aussi, même année que le concert. Donc quand j'ai fait le bouquin sur Woodstock, j'ai en fait, c'est la recherche du père, je me demandais si mon père, ce n'était pas un grand musicien. Non, ça va, papa, tout va bien, je sais qui tu es. Et donc en fait, l'histoire pour moi, quand j'ai commencé en 2000, j'ai lancé une série qui s'appelait Love Song, j'avais envie de rajouter une bande son en fait. Et donc chaque chapitre de la fameuse série Love Song ou ses potes, chaque chapitre était une chanson des Beatles, des Kings, des Rolling Stones et des Who qui permettait en même temps que de le lire, on pouvait se mettre la bande son et écouter et avoir comme dans des films la bande son qui allait avec. Donc c'est un peu ce qui a été renouvelé par la suite avec Ruben Pedero sur The Long and Winding Road où là on fait le concert de l'île de Wight et on finit là-haut. Et donc là, je me suis amusé justement à voir la bande son aussi avec 40 titres parce que c'est un bouquin de 160 pages. Où là, on a refait tous les morceaux qui dataient de l'année 69 que que le père de Ulysse pouvait écouter en même temps qu'il allait au concert de l'île de Wight. Donc ça, c'était assez marrant à faire, sachant que maintenant, avec les Spotify, Deezer et tout ça, on peut programmer la liste et qu'elle soit disponible pour tout le monde. Ça, voilà, ça, c'est une chose de Jones que tu connais pas.
Oui, non, exactement.
mais qui marche très bien. Et donc là, il y a le Woodstock, on a fait pareil, où le chapitrage était une chanson aussi. Et donc là, comme le bouquin de Woodstock a bien marché, on a relancé un éditeur qui n'a pas eu les droits pour faire qui était Hachette parce qu'on voulait faire le bouquin chez Hachette sur Woodstock. Il y a un autre éditeur, on a dit bah écoutez, si vous faites pas Woodstock chez nous, est-ce que vous voulez faire la biographie de Janis Joplin? Donc là pour le coup donc c'est un contrat signé très rapidement derrière qui nous permet, sur lequel on est en train de travailler en ce moment. Donc c'est un gros bouquin là, ces fameux romans graphiques qui va faire bien 150 pages sur Janis Joplin et qui sortira pour le septembre prochain pour l'anniversaire de la mort de Janis. Donc un projet comme ça se monte à peu près en un mois, deux mois, on montre un projet pour un éditeur, c'est-à-dire on va faire un résumé du livre, moi je vais faire des recherches de personnages, plus dessiner 3-4 pages et le scénariste lui va proposer le scénario de l'ouvrage. Donc c'est à peu près un projet comment on se monte un projet de bande dessinée qu'on va proposer à l'éditeur qui lui va répondre le temps d'une réunion. Donc ça peut être entre une semaine et un mois et on va renégocier, retravailler des choses et la signature de contrat se fait souvent 2-3 mois après.
D'accord,
donc c'est quand même assez long là, à chaque la mise en route d'un contrat. Il y en a entre le moment où on pense le projet et le moment où il signe, il y a entre 6 mois et un an. Donc c'est toujours très lent.
Et à propos de ce projet, est-ce que ça va être une biographie pure ou alors vous allez l'habiller d'une partie romancée?
Là, on y avait pensé au début, mais en fait, le caractère de la vie de Janis Joplin, donc cette chanteuse des années 70 qui est morte à 27 ans, est absolument fantastique. C'est vraiment je sais si les auditeurs ne connaissent pas la vie de Janis Joplin, il faut vraiment qu'ils se penchent dessus parce que c'est une fille blanche qui vient du Texas, donc tout ce qu'il y a de plus raciste aux États-Unis dans les années 40. Donc elle est née elle était fan de musique noire et elle avait cette voix de chanteuse black qui est absolument magnifique. Et donc elle a illuminé un petit peu le le monde de San Francisco lorsqu'elle est, elle a quitté sa ville où elle était dégrossie par tout le monde parce qu'elle n'était pas très jolie, elle n'était pas esthétique, elle s'est fait moquer et railler par toutes ses écoles. Et donc elle est partie à San Francisco et là, des personnes ont entendu sa voix, ont dit « mais attends, cette voix elle est juste extraordinaire, il faut en faire quelque chose » et elle a monté son groupe. Et en 3 ans de carrière, elle a eu un succès phénoménal. Donc, on l'appelait The Pearl, donc la perle, tellement sa voix était magnifique. Et sur scène, elle grimace et tout ça. Donc, c'est un personnage vraiment lui-même qui est vraiment passionnant parce qu'elle a toutes ces ambiguïtés d'homosexualité, de recherche, d'amour, parce qu'elle passe sa vie à rechercher cet amour des autres. Et elle est vraiment assez fantastique à raconter. Donc, d'essayer de le remettre dans un contexte de nos jours, il n'y avait pas besoin, hein, parce que le personnage parle en lui-même, la fille qui est rejetée et harcelée à l'école, puis ensuite qui a une voix que tout le monde surprend tout le monde, et derrière elle c'était une fêtarde, donc c'était drogue, alcool jusqu'au bout de la nuit, et même où elle finissait souvent en se bagarrant avec des garçons, elle a vraiment un caractère cru, brut de décrofrage, et donc ne serait-ce que sa vie en elle-même suffisait, on n'avait pas besoin de faire un rapport avec autre chose pour pouvoir la raconter, donc on est vraiment parti sur cette forme de narration là où on va vraiment jouer sur toutes les images des années 70 qui vont avec.
D'accord. Et ensuite, donc, tu me parlais
d'autres projets. Mais après, il y avait l'adaptation aussi d'un roman qui s'appelle Maudit Karma, d'un auteur allemand. Que ça, c'est quelque chose que j'avais envie de m'essayer depuis quelques temps, de faire des adaptations. Jamais fait, donc c'était de retranscrire en bande dessinée un roman, donc ça a été accepté aussi chez Michel Lafon qui devrait sortir en 2021, donc on a...
C'est un projet donc personnel, c'est-à-dire tu as eu un coup de cœur pour un livre.
Non, c'est l'éditeur qui m'a dit, voilà, suite à ton bouquin sur Woodstock, on aime bien ton dessin, est-ce que ça te tenterait d'adapter ce bouquin-là? J'ai lu, je dis écoutez, pourquoi pas. C'est un challenge assez que j'avais jamais fait, je me suis dit pourquoi pas. Avoir un texte déjà tout écrit où je dois vraiment essayer de retranscrire l'univers du personnage est assez enthousiasmant à faire, donc je prends cœur. Et puis il y avait aussi là pour le coup, donc c'est chez Michel Lafon, donc qui est quand même un gros éditeur, avec là ce qui est un peu la réputation dans le métier, un service de presse assez impressionnant,
parce qu'il y a une grosse
machine où il y a 6 attachés de presse rien que pour soi, alors que normalement chez autres éditeurs c'est dur d'en avoir un. Donc ça va être un bon moment, et il y a une grosse promo qui arrivera derrière et tout ça, parce que ça on le sait à l'avance puisque c'est déjà un best-seller en roman. Donc j'avais un peu envie de tâter ça, voir ce que ça pouvait donner, et ça c'est rigolo. Donc ça s'appelle Maudit Karma, où c'est une femme qui est présentatrice de télé qui vient décéder alors qu'elle se reprend une cuvette d'un satellite en pleine tête et un peu à la façon de Sex and the City, et elle se retrouve donc avec un mauvais karma où elle recommence sa vie en étant fourmi, et elle va remonter tous les échelons pour essayer de retrouver sa fille chérie qu'elle aime et qu'elle a dû abandonner forcément puisqu'elle est décédée, sa fille a 7 ans au début de l'histoire et elle en a 14 ou 15 à la fin, donc c'est assez marrant, c'est loufoque, mais bon, l'idée de dessiner des fourmis, des chiens, des chats, parce qu'elle va évoluer au fur et à mesure, tout en parlant, en regardant la réincarnation, en regardant sa fille grandir, et elle en tant que chat en train d'essayer de défendre sa fille face à d'autres mecs. C'est assez rigolo, donc je me suis dit tiens, ça peut être rigolo à faire. Donc ça c'était la bonne surprise aussi, que ça a été accepté tout de suite. Et puis là il y a un projet toujours dans l'univers du foot, comme j'avais fait le bouquin sur l'Olympique de Marseille, c'est de travailler sur Michel Platini, donc essayer de faire une réflexion sur avec un scénariste, encore une fois, qui s'appelle Sylvain Vénère, qui est un historien, un éminent historien français, un de ces jeunes de la nouvelle génération qui ont vraiment beaucoup de choses à dire et beaucoup de réflexions sur l'histoire, de revoir l'histoire, mais à travers le regard, l'histoire de l'Europe, mais à travers le regard de Michel Platini. Donc c'est un joli projet aussi, où on va reparler de l'Euro 84, de Séville, de du Ezel, voilà, donc il y a plusieurs événements qui vont raconter
ça. Vous irez jusqu'à la tribune l'évolution de la Coupe du Monde au Qatar ou pas?
Non, on s'arrête uniquement à la carrière professionnelle du joueur.
Voilà, oui, professionnel du joueur, voilà.
Je reste là, pas
de l'homme d'appareil.
Donc pour moi, le Marseillais, vous confronter à Michel Platini, ça va être marrant. Oui. J'aurais préféré un Gunnar Anderson ou un Papin, mais bon, voilà, c'est un autre univers et il est assez excitant à faire. Donc voilà. Et puis après, il y a 2-3 autres projets dans les tuyaux, mais ça, c'est les trois prochains projets qui vont me tenir pour l'année et demie à venir, et puisque les premières publications sortiront en septembre 2020, et après ça sera 2021 et 2022. Donc
tu as quand même un sacré rythme de travail.
Moi, je travaille vite, ouais. Je suis un peu staccano de ce côté-là. Oh, je suis un peu barré puisque j'ai la chance de pas avoir besoin de beaucoup dormir. Donc, ce qui fait que je travaille énormément de nuit.
Tu as à peu près,
en
un mois, tu
ça dépend du projet. Par exemple, l'événement qui était assez rigolo, là, c'était ce bouquin sur Woodstock. C'était vraiment un coup de tête. Hein. J'étais une fois de plus au stade Vélodrome en train d'attendre un match de l'OM. Et j'ai au téléphone Jean-François Pérez, le scénariste du bouquin sur l'Olympique de Marseille. Je ne fais que répéter, mais donc ça s'appelle OM Club Légende aux éditions Hugo et Compagnie, disponible dans toutes les bonnes librairies, les Fnac, même sur commande sur Amazon. Voilà, je relance un coup.
Ça me plaît pas trop que tu parles d'Amazon.
Les gens, ils achètent dessus. Qu'est-ce que je veux que je te dise, ça existe. Je suis d'accord. Aller chez les libraires pour acheter vos livres.
Aller chez les libraires, c'est quand même mieux.
C'est mieux. Ou même commander à la papeterie du coin, ça marche très bien aussi. et le bouquin est en bon état souvent, donc ça c'est un bon point positif. Donc j'étais au stade et tu bosses sur quoi en ce moment? Comme lui, il est chef des sports à France. À Europe 1, il me dit je suis en train de faire des chroniques pour cet été sur Woodstock pour fêter les 50 ans. Donc ça, on était au mois de février. J'ai dit c'est une bonne idée, ça me ferait bien un petit dossier pour raconter les 50 ans, un 4-5 pages pour Libération, Le Monde ou de la presse. Et j'ai dit mais là pour le coup j'aurais besoin d'un scénariste parce qu'il faut que ça aille vite. Là le deadline, on était donc en février, pour au mois d'août il faut que tout soit fini fin mai, donc on a un bilan assez serré, un timing assez serré là dessus je me suis dit tiens, ça peut être rigolo. Et je contacte un scénariste qui était Jean-Michel Dupont, qui a fait Love in Vain en scénario avec Mezzo, qui est un grand spécialiste de la musique. Je lui dis écoute, ça te tenterait pas de balancer vite fait un petit truc là dessus qu'on bosse à deux? Il me dit ouais, pourquoi pas, mais je suis débordé. Par contre j'ai le réalisateur d'un film qui est un fan de musique aussi, Nicolas Finet, que ça intéresserait. Et donc on me donne les contacts. Avec Nicolas, on monte le projet en une semaine, alors que normalement on le fait, comme je disais tout à l'heure, en plusieurs mois. On monte le projet en semaine, je fais deux planches dans la semaine, des croquis et tout ça. On envoie le projet chez l'éditeur et c'est signé un mois après, et on a fait les 60 pages en deux mois.
Ah oui, effectivement, voilà. Pour un album, c'est serré quand même.
C'est très très serré en termes de planning, puisqu'il fallait qu'on ait absolument fini tout ça fin mai, donc on avait vraiment un timing très très serré. Donc pour le coup, oui, je travaille vite. Je mets longtemps à tout préparer, parce que en termes de doc, je vais pas dire de gros mots, mais j'aime vraiment savoir exactement tout, surtout quand on est dans le documentaire. Comme
tu
Woodstock,
veux serrer au plus près de la réalité. Tu t'offres pas une latitude, la fameuse licence artistique qui permet de placer des trucs.
Ça j'aime pas.
Soit la fainéante, soit pour être plus tranquille.
Ça c'est quelque chose que j'aime pas. Par exemple, justement, le bouquin sur l'Olympique de Marseille, c'était ça qui était dantesque, puisque je raconte l'histoire de l'OM. Enfin, Jean-François raconte l'histoire de l'OM des origines jusqu'à nos jours, mais les origines, qui est-ce qui sait comment étaient habillés où était le siège social olympique de Marseille en 1899, où était à quoi ressemblaient ce qu'on appelait les gentlemen à l'époque, parce qu'ils les sportsmen, qui étaient les premiers à jouer au football. Et le football, à l'époque, se jouait comme du rugby, ça se jouait à la main. Donc, c'est tous ces éléments-là que je n'avais pas sur Marseille. Quels étaient les premiers maillots de quand Marseille jouait dans les années 20? Ils jouaient avec quel maillot? Quelles étaient les chaussures? Comment était le stade? Comment était le public? Comment étaient les adversaires? Et quels étaient les maillots des adversaires? Donc, ça fait beaucoup. Donc, il y a eu deux ans et demi de travail assez dantesque pour retrouver juste un détail stupide. stupide. Voilà. Oh, et oui. Par exemple, quand j'ai travaillé sur le bouquin, sur le projet là qui va sortir sur Michel Platini, j'ai fait deux pas sur Séville pour faire les essais pour voir avec l'éditeur, ben j'ai passé juste une demi-journée à savoir si le toit de Séville était couvert ou pas. Sur le stade était couvert, juste pour une case. Oui, oui. J'ai dû vérifier 25 fois de savoir si le stade était couvert avant la Coupe du Monde ou pas. Donc ça, voilà, c'était un peu dantesque. Donc,
ça vient vraiment de ton côté.
Ça, c'est mon côté.
Ou tu veux pas qu'un jour il y ait quelqu'un qui t'emboucane en disant monsieur, sur cette case-là, je regrette.
Il y aura forcément, j'essaie que ce soit le minimum possible. Quoi. Oui. C'était ça. Donc c'est là avec le scénariste, je travaille beaucoup en train de dire non, mais j'ai plus besoin de plus de doc. Oui. Donc là, sur le bouquin sur Michel Platini, ils l'ont bien compris. Ils sont juste en train de commencer à faire toutes les recherches pour me faciliter le travail, parce que là, c'est quelque chose qui me fait perdre beaucoup de temps. En fait, je vais passer très souvent 80% du temps à chercher la doc et mettre 20% pour le dessiner. Donc c'est très long.
Oui. D'un autre côté, comme tu alternes avec la fiction, ça te permet au moins quand tu es sur la fiction de ne pas être tenu à ces contraintes.
On est plus dans une exigence esthétique où on va faire la jolie page et on va se faire plaisir, alors que quand on est dans le documentaire, on va vouloir faire la belle page mais avec les bons éléments. Et donc ça c'est assez dantesque. Donc mais après il y a aussi l'interprétation et la qualité graphique qui va faire qu'on va pouvoir s'affranchir de certains dessins. Moi, c'est quelque chose qu'un dessinateur comme Emmanuel Guibert, qui a fait le photographe ou la guerre d'Alan, est assez très très malin dans son dessin, où lorsqu'il ne sait pas, il va réussir à faire une espèce de sfumento, de vide autour. Pour s'intéresser qu'à l'essentiel, et là il est très très fort pour ça. Et ça, c'est quelque chose
ça fonctionne
très très bien. Mais moi, je crois que j'ai pour l'instant encore besoin de décors, et j'aime bien pouvoir trouver les décors, parce qu'il y a un peu ce côté archiviste chez moi qui aime bien ce côté super référencé. Et je suis super content lorsque ça y est, j'ai trouvé les chaussettes sur lesquelles jouait l'OM.
Alors que 99,9% voire plus pour cent des lecteurs ne savent
pas. Mais non, parce que absolument pas. Et ça, c'est toujours pareil. Hein. C'est comme quand on regarde les films où il y a des détails incroyables.
Oui.
On ne voit pas, mais ils ont dessiné exactement les mêmes décors que tel. Voilà, ça c'est assez dantesque. Mais c'est ça qui fait plaisir.
Et en tant que scénariste, tu serais capable d'emboucaner un dessinateur, parce que justement, cette voiture, mais tu plaisantes, il ne peut pas y avoir cette voiture dans ce cadre-là ou quoi ?
Alors, oui, ça forcément, parce que ça, c'était justement sur Long and Winding Road.
Oui, je pensais à celui-là.
Ruben, il a dessiné une platine de disque qui n'existait pas dans les années 70.
Et il est tombé sous l'œil d'un expert.
Non, j'ai juste vérifié derrière. Voilà.
Ah, tu as vérifié carrément.
Juste vérifié. Non, parce que je n'ai pas la science infuse.
J'ai juste
regardé, j'ai dit, pareil, bizarre quand même. Un modèle comme ça, donc j'ai demandé s'il pouvait le redessiner. Il a dit oui, pas de souci. Donc de ce côté-là, il n'y a pas trop d'effets, puisque j'aurais tendance à dire que quand je suis scénariste, je prépare tellement le travail pour le dessinateur qu'il n'a pas grand-chose à faire. Donc comme Ruben devait faire ce bouquin sur Long and Winding Road, je l'ai noyé de documentation. Il avait l'itinéraire Google Maps pour faire tout le chemin travers la France, donc rue après rue, ça se passe, après tu choisis tes plans. Et quand on faisait sur l'île de Wight ou d'autres événements, il était blindé de toutes les photos et documentaires qui lui permettaient.
C'était plus confortable.
Mais ça, c'est surtout ce qu'on attend. Moi, je sais qu'en tant que dessinateur, ce que j'attends d'un scénariste ou d'un éditeur qui va avoir le travail, ça. Alors ça aussi, c'était le bon vieux temps de la bande dessinée, où il y a 20-30 ans, l'éditeur nous offrait le billet de voyage pour aller visiter le lieu et faire carrément les recherches directement sur place. Donc ça n'existe plus. Maintenant, on a Internet et on est obligé de jouer avec.
Au moins ça. Mais d'un autre côté, c'est vrai que tu as apporté de main des documents que tu n'aurais peut-être pas trouvé même sur place.
Ah oui, non, c'est sûr. Le gros problème aussi qu'on a avec Internet, c'est qu'il y a énormément de fake. Et il faut réussir à sortir faire le mélange entre les bonnes photos, les mauvaises photos, qui se plantent en train de faire croire que ça s'est passé à tel endroit alors que c'est un autre événement passé 4-5 ans plus tard. C'est des moments de galère.
Réussir à sourcer vraiment les choses.
Ça c'est un gros gros problème d'Internet. Donc ça, c'est quelque chose que vraiment je conseille à tous nos lecteurs, à nos auditeurs, c'est de vraiment faire attention à toutes les informations qu'ils ont, parce que ça s'aperçoit après quand on commence à gratter que c'est pas absolument faux, et on se retrouve avec les des vraies sources, et c'est le gros problème justement de ces, maintenant, de ces lectures rapides où on va lire qu'un titre et ça va suffire.
D'accord. Bon, on va faire la deuxième pause musicale. On parle. C'est très intéressant en plus.
Et on a qui ?
Et puis, là, c'est du français. J'alterne français et anglais. Donc là, c'est plus connu. C'est Les Garçons Bouchers, Paris-Provence. J'aime bien ce titre. J'ai pas pris du trop violent. Des fois, je mets un peu de musclé, mais là, non.
D'accord.
Donc, Paris-Provence par Les Garçons Bouchers.
Quand il débarqua à Paris, il croyait encore à la grande aventure. Les lumières, les flonflons, c'était du vrai et pas de la littérature. Une semaine durant sur les boulevards, il se traîna le soir, les yeux tout grands ouverts. Et quand venait enfin la nuit, il souriait. Sa petite ville perdue dans la campagne lui paraissait si petite et mit son cœur si vaste. Pourquoi n'était-il pas venu la pluie? Le pavé, la scène et le périph' lui apprirent très vite la cadence. Tous les jours la vie lui expliquait que tout le monde ici n'a pas la même chance. Il y croyait encore au bout d'un an, bien que le boulevard lui semble bien plus fade. Et il pensait souvent à elle, presque là-bas. Il sentait lui le petit provincial qui portait sur son cou tout le mépris du monde. Mais il marchait toujours la tête levée. Amis maintenant, c'était juste des ombres rencontrées dans les bars. Ses amours, c'était des yeux qu'on croisait dans le métro à l'occasion d'un couloir. Dans sa chambre à clichy, il y avait des affiches, des photos et puis un promenade à coulisses. Celui qui devait faire de lui le roi de Paris. Mais il restait figé désespérément accroché au mur de trombone à coulisses. Et sa musique à lui dorénavant, c'était la rue. Là-bas d'où il venait, c'était trop dur et puis il était trop fier. Il se rappelait encore à son départ les phrases sceptiques de son père. L'avait choisi, l'avait perdu peut-être, même si les dimanches étaient interminables. Il serrait les poings et se chantait des chansons dures. Il se donnait encore une petite année pour sortir de sa merde, sortir d'indifférence. Mais plus les jours pleuvaient, moins il riait. Il a accroché au porte-manteau son perfecto et ses espoirs. D'une ride est apparue le long de sa bouche crispante à jamais sa mâchoire. Paraît que maintenant il travaille dans le métro, il contrôle l'étiquette sur la ligne 14. Il n'est jamais retourné là-bas dans sa ville. Pourtant certains matins, avant de descendre dans le ventre grouillant de la ville lumière, il humait autour de lui. Pourtant certains matins, avant de descendre dans le ventre grouillant de la ville lumière, il humait autour de lui.
Ça reprend. Voilà. Donc on reprend, on discute pendant la chanson aussi. Voilà. Alors.
Je suis désolé. Non.
J'ai quelqu'un de largement plus bavard que moi.
Ben oui, donc le problème c'est qu'il y a rien à boire. Alors que si je bois pas, je parle.
Bon, ça va. Petit reproche, mais ça attendra après l'émission. J'y penserai pour la prochaine fois. À travers tout ce que tu m'as raconté, en fait, je me suis aperçu d'une chose, c'est que les rencontres comptent énormément.
Oui.
Parce que des rencontres fortuites ou provoquées, mais pas dans le sens attendu, finalement, ça gère pas mal de choses, au moins dans ton métier tel que tu le pratiques.
De toute façon, c'est le principe dans toute matière artistique, hein, qu'on le veuille ou non, c'est le carnet d'adresses.
Oui.
C'est les rencontres, cette présence, c'est de se voir. Moi, c'est vrai que j'ai vécu pendant 10 ans à Paris, donc j'ai eu cette chance-là d'être au milieu, le début de ma carrière. Il y avait juste à côté de chez moi un petit libraire qui était également éditeur, qui s'appelait Tetrock, et donc qui éditait du Shelton et du Crumb. Donc moi, ça faisait partie des mes deux maîtres. Donc quand j'ai rencontré cet éditeur, il m'a dit écoute, tu veux pas faire du lettrage pour Crumb et Shelton? Voilà, j'ai mis le pied dans le métier comme ça, en faisant du lettrage pour les autres, et ça m'a énormément plu. Donc là, je voyais les planches originales de Shelton et Crumb qu'il fallait que je relettre, c'était quelque chose de magique. Et ça c'était le début où on commence à faire son carnet, on va, ah oui, mais un tel, il... Et c'est vrai que donc, quand j'étais à Paris, puis ensuite à Tours, j'ai essayé de monter des ateliers pour qu'on soit plusieurs dessinateurs. Quand j'étais à Paris, j'étais à l'atelier des Vosges, qui était l'atelier où j'étais avec Johan Sfar, Marjane Satrapi, Emmanuel Guibert. Donc on était, voilà, moi j'étais pas le connu de l'atelier, mais ouais. J'ai bénéficié aussi de leur carnet d'adresse, de leur contact et tout ça. Donc ce qui fait que le réseau se voit, puis après on rencontre de nouveaux dessinateurs en festival, mais on est curieux, on va lire, on va commencer à s'intéresser à ce que font les autres, et donc ça c'est la chance. Donc maintenant je suis au moins revenu dans le sud de la France, c'est mon plus grand bonheur. Je vis chez moi, je travaille chez moi au milieu de ma campagne avec mes oiseaux et mon chien, mais c'est vrai qu'il faut que je pense à sortir pour ne serait-ce que me balader, en gros voir des dessinateurs, discuter, parce que on nous oublie très très vite.
Oui,
c'est très très facile de se retrouver enfermé chez soi et puis attendre que le téléphone sonne, bah oui, il sonne pas parce que tu ne sors plus et tu ne vois pas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'être tout le temps un petit peu en mouvement pour écouter, sentir les projets arriver et ne pas être que derrière Facebook en train de liker trois trucs, quoi.
Bien sûr, oui, c'est comme on dit pour le show business, il faut exister,
présent et ne pas attendre que les choses tombent d'un tout cru ou d'espérer qu'une fois qu'on a signé quelque chose, que c'est fini et c'est fait. Voilà, je sais que là je viens de signer trois nouveaux projets, je suis à fond dedans parce que c'est ma nature et je vais pas lâcher, mais je sais qu'en même temps je vais pas m'empêcher, je vais continuer à aller en festival, aller à gauche et à droite pour déjà en train de réfléchir à l'après.
Voilà.
Et en train de nourrir en même temps ce que je suis en train de faire en ce moment.
D'accord. Tu viens de prononcer le mot festival, donc pour les auditeurs... Ah, je reprends un peu par contre pour le lettrage. Peut-être que beaucoup de gens qui nous écoutent ne se rendent pas compte de ce que c'est. Il s'agit donc, si j'ai bien compris, de remplir les bulles et les textes qui accompagnent aussi. Pour la traduction, la plupart du temps, c'est les auteurs qui le font eux-mêmes dans leur langue. Pas toujours, je crois qu'il y a certains auteurs qui n'étaient pas satisfaits de leur lettrage. Donc
il y a ce métier de lettreur qui existe beaucoup moins maintenant puisqu'il y a l'informatique qui a remplacé tout ça. La grosse particularité en fait, c'était que Shelton Crumb, étant des auteurs des années 60-70 américains du mouvement hippie, ont énormément travaillé avec des lettrages complètement bizarroïdes. Donc il n'y a pas d'ordinateur qui peut refaire ça, donc on est obligé de le refaire à la main. Donc ça, c'était un vrai bonheur d'avoir ça. Mais après, c'est aussi le soin et la qualité que veut mettre un éditeur à une traduction. Soit il ne va pas se poser de questions, il va faire informatiquement, il va se débrouiller, ça va être moche, mais ça va fonctionner, il va vendre son truc. Ou il y a encore des éditeurs qui ont envie de faire le travail avec une finesse, un vrai travail, mais ça coûte de l'argent. Et par contre, les bouquins, ils sont super beaux derrière et c'est un vrai plaisir, un vrai régal de travailler comme ça.
D'accord.
Voilà.
D'accord. Donc maintenant, je reviens sur les festivals. Donc les festivals, c'est réunions organisées où des auteurs rencontrent le public et il y a différentes formules. Le plus célèbre en France étant Angoulême.
Oui. Fin janvier,
voilà.
Je n'irai pas encore cette année.
Ah non ? Choix ou...
J'ai assez de projets comme ça. Ouais. Angoulême, c'est toujours plaisant, mais il faut être invité par l'éditeur. Et pour être invité par l'éditeur, il faut être ceux qui ont une actualité ce moment-là. Donc moi, j'en ai pas. Donc je sais pertinemment que si je vais aller à Angoulême, c'est par mes propres moyens et tout ça. Donc non, ça va. Ça, je le fais pas cette année. Il y a assez de festivals de toute façon. Pour les amateurs de bande dessinée, il y a plein d'autres festivals. Il y a beaucoup moins de monde et c'est beaucoup plus facile de rencontrer leurs auteurs. Donc même ne serait-ce qu'autour de chez nous.
Bien sûr.
Voilà. Et puis après, je ne sais pas, c'était quoi la question ?
Non, c'était que les festivals, c'était pour rebondir sur ce que tu avais dit sur les rencontres, c'est-à-dire Angoulême, c'est l'équivalent du Festival de Cannes pour le cinéma, quoi.
Oui.
Donc, où il y a à la fois les éditeurs, les traducteurs, d'autres auteurs, des collègues, donc occasion de rencontrer du monde en plus du public, mais peut-être avec toute cette effervescence, cette agitation.
Elle est saine, hein, tout ça, on passe des très bons moments. C'est vrai que Par exemple, Angoulême, c'est un peu à cette origine-là où j'avais rencontré Chris, chez qui maintenant je viens de signer mon bouquin 5-6 ans après chez Delcourt.
Voilà, donc...
Parce qu'il m'a connu et on s'est recroisé, on a passé un bon moment. Donc je ne le connaissais pas à l'époque, je connaissais son travail mais pas la personne. Donc ça c'est quelque chose de complètement différent. Donc c'est oui, de toute façon, ce sont des moments de rencontre. Après, il y a aussi la raison, il y a la raison financière, il y a la raison professionnelle, familiale qui font que bon ben. Bah,
partir
tous les week-ends en oubliant ses enfants et sa femme, c'est pas trop mon truc. donc voilà, donc je préfère rester là, aller au stade avec mon fils et gueuler sur les Marseillais parce qu'ils avancent pas.
Ah ben oui, je pense qu'ils entendent pas que ta voix depuis un certain
donc
temps.
Donc ça, c'est un peu plus mon credo, c'est réussir à profiter aussi de sa famille, de ses amis, et ne pas être que dans le boulot tout le temps, parce que je suis quand même déjà beaucoup, et c'est parce que c'est une telle passion que j'ai jamais l'impression de travailler, en fait. J'arrive pas à croire qu'il y ait des gens qui acceptent de me donner de l'argent pour que je raconte mes bêtises.
Ah ouais.
Donc c'est quand même assez
c'est comme assez ceux qui font des spectacles d'humour, voilà. Ou quoi. Ils sont sur scène pour faire ce qu'ils ont en principe toujours aimé de faire.
Ou qu'ils sont fait engueuler à l'époque, à l'école.
Oui, par contre, ça leur revanche.
Pas mes dessins, alors qu'avant, j'ai dessiné sur les tables de l'école.
Les instituts qui te déchiraient tes cahiers ou qui te confisquaient tes crayons. Qu'est-ce que je voudrais avant, parce que le temps défile et honnêtement je ne vois pas passer, que tu me parles un peu de tes goûts et de tes inspirations en matière de BD. Alors bon, voilà, non, c'est court,
en 3 minutes.
C'est très rapide, tu envoies des noms, non. Ou alors on parle.
J'ai parlé de Trump, Shelton. Alors oui, c'est vrai que je suis très influencé par tout ce mouvement un peu underground américain qui m'a énormément plu, avec un mec que moi j'adore de plus qui s'appelle Will Eisner, qui est considéré comme un des plus grands dessinateurs, puisque les prix aux États-Unis pour gagner les prix de la bande dessinée s'appellent les Eisner Awards. Donc c'est vraiment son nom qui a été utilisé. Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui est extrêmement remarquable, avec un dessin qui date des années 50-60, mais quand on le regarde on a l'impression que c'est un trait d'aujourd'hui. Il a une vitalité dans ses personnages qui est forte. Et puis après c'est je me nourris un peu de tout. Moi je vais plus me nourrir de séries télé, de films pour mes histoires, pour mes scénarios, et de romans et de vie quotidienne. Et en termes de dessin, après je vais me nourrir de plein de choses. Il y a plein de dessinateurs ici dans la région qui sont super. Je pense à Franck Biancarelli, qui a un très beau dessin et qui habite pas loin. Il y a tous les Godfordom à Aix, avec qui ont un autre univers mais qui n'est pas vraiment le mien, mais que Homero, je reconnais tout le talent. Il y a l'atelier à Marseille, les Armataliers, avec Eddie Vaquero, Domas et tout ça. Voilà, donc ouais, je vais me nourrir un peu de tout le monde. Après il y a tout le mouvement, on ressort aussi un peu avec quoi on a grandi. Donc moi je sais que les Chalands, Ted Benoît, toute la ligne claire, avec la magnifique exposition qui est en ce moment à Toulon, ça, ce sont des maîtres. Bon, voilà, il y a les maîtres qui sont là et on va se nourrir tout le temps, mais je fais une espèce de tambouille, moi.
Tu n'es pas figé, y compris dans les genres. Est-ce que tu lis du comics, du manga?
Pas plus
ça
que
t'arrive
ça.
Pas plus que ça.
Pas
non.
plus
mais
que ça.
Il n'y a pas une aversion non plus. C'est parce que.
Bon, non, mais non. J'ai grandi avec les Strange et compagnie, les super-héros. Ouais. Maintenant, j'y trouve plus vraiment mon intérêt.
D'accord.
À ma lecture, c'est pas quelque chose qui va m'emballer. Alors, je ne peux pas dire que ce ne sont pas quelque chose qui sont profonds, mais j'ai besoin vraiment. Mes lectures se nourrissent vraiment de profondeur et de relations humaines. Donc, c'est vraiment ça que je vais chercher avant tout dans les histoires. Ou l'histoire qui est super bien racontée. Et ce n'est pas trop ce que je ressens depuis quelques années dans le comics. Donc, voilà, il y en a tellement qui sortent que je ne vais pas me battre là-dedans.
Il faut le hasard, soit quelqu'un qui te conseille, ou que ça te tombe sous les yeux, ça paraît intéressant.
Voilà. Oui, et le manga, c'est à peu près pareil. J'avais des grands maîtres, Tezuka et autres. Je me suis régalé à les lire. Mais derrière, j'ai pas envie de me fader tous les autres trucs. Parce que je ne me retrouve pas forcément dedans. Mmh. Et voilà. Donc je sais qu'il y a des styles de dessin et des styles d'histoire qui me conviennent et avec lesquels je m'éclate. Et puis il y a des auteurs aussi. Je sais que je ne suis pas fan de leur univers, mais je suis fan des personnages et avec qui je vais passer un très très bon moment. Et on est vraiment des potes. Mais je sais qu'eux ne sont pas plus fans que ça non plus de mon travail, mais on s'apprécie humainement, oui, sûr, et on reconnaît besoin. Le talent de l'autre.
Oui, tout à fait.
Mais
oui,
sans se dire que, bah, voilà, c'est pas forcément mes tasses de thé non plus, et je m'arrête là.
D'accord. Bon, ben, on va s'arrêter là, comme tu l'as dit tout de suite. Donc, on va se quitter. Bon, ben, merci de nous avoir écoutés. Et j'espère peut-être une prochaine fois, voilà. Parce que.
Donc, je répète, moi, mon nom d'auteur, c'est Christopher. Si les gens ont pris l'émission en cours, ils ne sont pas au courant.
Tout à fait. Il me semble qu'on l'a un peu dit, mais bon, voilà, à conseiller fortement. Merci. Au revoir.